Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits.
On se réveille dans différents aéroports. On change de fuseau horaire, on perd une heure.
Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente ?
Hello, hello, hello tout le monde, tous les auditeurs, auditrices qui nous entendent. On est bien toujours sur le direct du festival Checking Party à Guéret, sur le bel aérodrome de Guéret, deuxième édition de ce festival. Et donc un direct de 2 heures, en retransmis sur l'ensemble des radios Ferrarock. Je suis en compagnie de Thibaut à la technique, et puis de plein d'autres collègues de l'ensemble des radios Ferrarock, comme je le disais. Et là, on va commencer avec une petite capsule de Anne-Laure.
Qui est en mission ?
Cougar, Merlin, Maverick et Goose.
Bon Dieu, Maverick et Goose.
C'est toi qui m'as vu grandir.
Alors moi c'est Camille, je suis technicien son et je participe au projet de la baraque depuis bientôt 8 ans. Et donc la baraque, c'est un studio associatif, résidence artistique, pluridisciplinaire. Il y a jusqu'à 20 places, je pense. Et donc on sent fameux studio, 2 parties au grenier, une partie control room, donc avec la console, les moniteurs, etc. Et une partie live, donc on peut monter une batterie, mettre des amplis. Il y a assez de place largement pour mettre des bonnes formations déjà. C'est une musique qui est alternative, dans tous les styles, mais alternative. Le style baraque, c'est éclectisme à fond, parce que c'est aussi un lieu où on peut faire péter un peu de son un peu fort. Donc il y a des sound systems, que ce soit dub ou techno, qui posent une partie de leur sono des fois ici, pour faire des soirées privées, et tester leur mix, et régler leur sono. Et donc du coup, on a aussi cet aspect plus électro et sound system culture. Donc ça varie entre techno, reggae, dub, métal un peu expérimental. On a une touche expérimentale aussi.
Sors pour l'instant, trois tourvoyeurs, menteurs, voleurs d'images, évangélistes de plage. Excellent, utile, excellent, ouais. Et ne pensez-vous pas en faire un peu trop. Excellent, utile, excellent, ouais.
Je me présente, je m'appelle Simon Possible, je suis à La Baraque. Cette année, je fais régisseur pour le festival La Baraque Live numéro 6. Une personne nouvelle pourrait être un peu choquée à partir de chansons à la Cora en fin d'après-midi à un gros hardcore trash de batterie. Ça change, il y a quelques festivals qui le font, mais je vois souvent que la majorité des festivals que j'ai vus, c'est souvent thématique au niveau de la direction artistique. Et on s'est toujours donné la mission à la Baraque Studio de garder cette chose qui fait qu'il y en a pour tout le monde.
Il y a un Facebook, la Baraque Studio, donc BA2RAK Studio 2.3, mais toutes les informations plus spécifiques sont un peu plus bouche à oreille, etc. On fait un gros événement sur l'été, mais la plupart du temps, on est plutôt sur le bouche à oreille, la mail list des adhérents. Donc c'est un lieu qui est réservé aux adhérents, donc avec une adhésion qui peut être ponctuelle ou à l'année. Et donc le mieux, c'est de venir nous voir.
Du bâti, creuse, creuse, gâteau à la noisette.
Creuse, creuse, que la nature, creuse, creuse, et le bon air pur, creuse, creuse.
Merci, merci Anne-Laure pour cette pastille, cette belle pastille sur la baraque studio. Et là, du coup, sur le plateau, on est toujours en direct de la Check-in Party sur l'ensemble des radios Ferrarock. Et on accueille Battles sur le plateau qui vont jouer ce soir. Avec JB de Radio Béton qui va faire l'interview avec Marine de Bob FM et Anne-Laure à la traduction.
Et bonjour, bonjour Battles et surtout bienvenue sur notre plateau. Donc vous êtes un duo, Yann et John. Vous faites de la musique depuis 2007 et vous venez de New York. Alors j'ai pu voir sur votre tournée, déjà que donc vous jouez ce soir à 21h et sur votre tournée européenne, c'est votre seule date en France. Est-ce que vous êtes déjà venu en France et quels souvenirs vous gardez de la France ou vos dates ici?
You're touring actually, and that's your only date in France. Have you ever come in France before? And what is your memory of France?
We've been coming to France for a while. I feel. Let me see. Memories of France. Very nice venues, especially when you compare it to the United States, where we come from. Secondly, what else do I think about France? What else? Sometimes very enthusiastic audiences.
Nice people.
Great translators. Paris, that's one of the good big cities of the world. What else do we think about France? It's one of the big spots in Europe, you know?
Absolutely. You can't come to Europe and not play at least 5 shows in France.
Donc en fait, ils sont déjà venus en France, mais il y a un petit bout de temps. Et ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus. Et puis leur souvenir de la France, c'est les gens sont sympathiques. Il y a un très bon accueil du public. Et il y a une ambiance assez sympathique, en général.
Moi, c'est une question sur la suite. Le dernier album est sorti en 2019 et il y a quasiment la moitié de l'album où c'est des featuring. Est-ce que pour la suite, vous avez prévu de vous reconcentrer et recentrer sur le duo et vos instruments ou justement d'autres envies pour tester de nouveaux featuring et de nouveaux artistes?
In your last album, there were a lot of featurings. So, in your next album, would you like to do something also with a lot of featurings, or do you prefer to do it only you two with your instruments?
We don't know yet.
Ils savent pas encore.
Ça répond aussi à l'autre question qui était c'est quoi la suite, parce que vous avez sorti des EP au tout début de votre carrière, puis des albums, et du coup le format c'était aussi l'autre question, mais peut-être que vous ne savez toujours pas non plus.
So you made EPs, so short albums, then bigger albums, and the next question was to say what is the what do you want to make, a long album, a short one, or do you don't know yet?
Triple album.
D'accord.
Triple
album.
So we need recommendations for any French collaborations if we should do any. Okay. Okay. So. Let's have a call in. What's the phone number?
Ils veulent des recommandations pour travailler avec des Français.
Seriously, France, give it to us. Call in and sing. Let's just hear it.
Une de mes autres questions qui est un peu spéciale dans le sens où vous êtes chez Warp en tant que label, donc label anglais en tant que groupe américain, et je voulais savoir si vous ressentiez un manque de label et de structure d'accompagnement dans les musiques instrumentales aux États-Unis.
Your label is Warp, it's an English label, and you're American. So is it because you consider there is a lack this kind of label in the United States?
I think Warp, it seems, it has like a nice international situation. You know, It's known throughout Europe and the United States and also Asia. And so everybody for that kind of music sort of knows it. It's a good situation for us. Yeah. So, you know, sometimes the United States, because it is a large market in and of itself, sometimes things within the United States just think of the United States and they don't look outside. But I think we as people and citizens of the earth, we think of everywhere. So it's nice to be on that kind of label.
Warp, en fait, c'est un label qui est pas du tout spécifiquement anglais, en fait. Il travaille avec des Asiatiques, il travaille avec des Européens, il travaille donc avec des gens du monde entier. Donc, ça leur correspond mieux. C'est vrai que les États-Unis, de temps en temps, ont un peu tendance à penser qu'aux États-Unis. Mais eux, ils se considèrent comme des citoyens du monde. Et donc, Warp, ça leur convient bien.
Et justement, comment s'est fait cette rencontre entre vous et ce label?
How did you meet Warp and you?
A mutual friend of ours who used to be on Warp recommended us to them, really. Just, it was kind of one friend telling another friend, and we met Warp. I think they came to one of our concerts, and it was pretty easy, really. We just met them, and everything fell right into place.
C'est par des connaissances communes, en fait. Ils avaient un ami qui travaillait à Warp, et donc d'ami en ami en ami, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, tout simplement.
Et au niveau des labels, peut-être, et du travail, et du fait d'être, comme vous l'avez pu le dire, citoyen du monde, est-ce qu'il y a d'autres labels, d'autres endroits dans le monde où vous aimeriez peut-être diffuser votre musique?
As citizens of the earth, as you said, is there some places you would like to play you haven't played yet, or is there some kind of places, specific places, not a country, but some festival or so on, where you would like to play?
Well, just thinking about it, strangely, we never played Russia, and we were supposed to play Russia in June. And then, obviously, that got canceled. So maybe in another 20 years, we'll get a chance to play there. Let's see. There was...
I like checking off the boxes in France. I feel like we played here so many times that it's like, you know, maybe Corsica, mm-hmm. like to play.
Yeah, come on, Corsica.
Monaco, would be cool.
Yeah. Yeah. As we get older, we're going to sort of situate ourselves. We just want, like, really rich people with yachts to come to our concerts, like in the south of France, that kind of, you know.
Would have been nice also in Russia for that.
Yeah, a few oligarchs. If you guys let them still come over here, then they could buy expensive T-shirts.
Donc du coup, en fait, ils devaient aller en Russie, et puis ils n'étaient jamais allés en Russie, donc ils étaient assez contents, mais ça a été annulé. Donc ils n'y vont plus. Et ce qu'ils aimeraient bien, c'est en fait aller dans des endroits où il y a des gens riches avec des yachts, genre Monaco ou la Corse.
Et bien sur ces belles paroles, on va clore cette entrevue avec Battles, qui, je rappelle, joue à 21h ce soir sur la salle Wall of Sound. Merci d'être venu sur notre plateau.
Thank you.
Et puis on va s'écouter un titre de Battle, c'est LPTDO.
Thank you. We'll be right back.
toujours en direct de la check-in party sur l'ensemble des radios Ferrarock jusqu'à 19h, de 17h jusqu'à 19h. Et là, on avait reçu Battles et maintenant, on va s'écouter une interview de la jungle qui était présente hier sur le Wall of Sound à partir de 18h. Et on va écouter une entrevue entre le duo belge et Thibaut et Sabrina.
On est avec la jungle, bonsoir.
Salut.
Vous avez joué plusieurs fois en Creuse. Et là, pour la première fois, la scène était plus grande que les bars où vous étiez produit avant. Comment vous êtes adapté? Comment vous allez adapter votre set?
Ben, d'abord, on tient à remercier le gang avec Fred et toute la bande qui nous ont accueillis dès 2015, je pense, des premières tournées. Ils ont toujours été là pour nous supporter, nous aider quand on devait couper la route ou quoi. Et donc on a joué, je crois, deux fois au bar PMU, là. Ouais. Voilà. Et puis jouer ici, bah, ça nous plaît d'autant plus parce que bah, ça reste une ville de cœur pour nous. Après la grande scène, oui, c'est une autre technique. Mais voilà, peut-être, voilà, on ne savait pas trop si on allait jouer au milieu ou quoi. Puis on est arrivé, on nous a dit c'est la grande. Et puis bah, on
c'est
fait
pas,
avec, quoi.
C'est pas angoissant, c'est juste différent. C'est plus grand. Voilà. Là, on a entre guillemets que 40 minutes, du coup on fait avec.
Mais du coup, on a commencé 5 minutes avant parce que les gens étaient présents.
On et préfère donc, jouer coup, une heure et quart, quoi. Voilà. C'est plus facile quand t'as plus de temps, tu peux faire
avec
plus
des longues
choix.
Chansons, c'est un peu compliqué de passer, tu vois.
Mais alors, justement, je me demandais finalement, parce que à Mons, c'est quand même assez bourgeois, assez strict comme ville, quelque part. Est-ce que vous vous sentiez un peu enfermé dans une espèce de. Vous étiez contenu quelque part par rapport à cette ambiance, à cette éducation et cette musique assez libératrice. Et en même temps, il y avait aussi cette tradition des fanfares. Je me demandais si quelque part, comment vous en êtes venu à avoir cette approche plutôt chamanique, plutôt libératrice, plutôt musique où justement on n'est pas sur des bases assez classiques, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes venu à avoir cette approche trans?
Alors c'est une longue question. Je ne sais pas d'où vient qu'il y a beaucoup de fanfares à Mons. Il n'y en a pas.
En Belgique et dans le nord de la France, ah oui, il y a peut-être. Énormément de fanfares.
Bah, il y a énormément de fêtes pour boire de la bière. Donc du coup, des carnavals, des folklores.
Voilà, et ça, c'est, est-ce que ça a marqué votre enfance, par exemple, ou quelque chose, il y a quelque chose dans ce...
Pas l'enfance, mais l'adolescence et tout. Forcément, quand tu as des fêtes un peu comme dans le nord de l'Espagne ou en Italie, où c'est un peu la folie, quoi, tu vois, les grosses fêtes où ils font des pyramides. C'est un peu le même genre de truc. C'est un peu dangereux à faire. Mais les gens le font. Alors il y a ce côté un peu bah, trans. Je sais pas si ça vient de ça, mais c'est vrai que c'est très trans de faire le combat folklorique là-bas, le combat du son à Mons. Mais il y avait une scène avant, ville bourgeoise. Ouais, on peut dire dans le centre-ville, il y a un peu des batcaves, tu vois. Moi j'appelle ça des batcaves. C'est un peu. Tu vois pas, mais il y a des grandes maisons. De temps en temps, il y a un porche qui s'ouvre avec une Jaguar qui sort. Et à l'intérieur, tu vois un peu du jardin avec des arbres centenaires. Tu fais, ah oui, on a plusieurs Batman chez nous. Tu vois. On ne sait pas trop, les Bruce Wayne, quoi. Plus des Bruce Wayne que des Batman. Tu vois.
C'est pas vraiment une ville comme Mons qui t'inspire à faire de la musique fofolle ou partir en tournée.
À ce moment-là, c'était Dour à côté de voilà. Nous.
Mathieu avait un groupe aussi. Mathieu, il avait un duo qui s'appelait Pêche du la Claque, qui était un peu, moi, le seul groupe de Mons avec... Close 10 ans plus tôt qu'ils faisaient du métal, mais si pas à Mons, il n'y a jamais eu de groupe qui vraiment nous ont poussé à en vouloir dans la musique parce que c'est une ville qui dort un peu quoi. Sauf pendant le doudou, ça dure une semaine au mois de mai-juin, mais sinon. Voilà, c'est pas. Non, c'est justement vouloir faire autre chose que rester à Mons. on ne conchit pas cette ville, pas du tout. Hein. Mathieu, il vit encore dans ce coin-là. Et quand on joue à Mons, on a énormément de gens qui viennent nous voir et tout ça, mais c'est vrai que par exemple la culture des cafés-concerts à Mons, elle a un peu disparu, quoi. Ça c'est.
Il y en avait énormément. Il y avait
c'est
énormément
une grande
tristesse
parce que il y en avait beaucoup.
Mais il y a beaucoup de programmateurs ou de gens qui nous disent ouais, la musique qui vient de Belgique, elle est trop bien. Je dis oui, mais elle est pas mieux qu'en France. Je veux dire, la scène belge est toute petite, forcément. Elle est divisée en deux parce qu'il y a beaucoup moins de groupes belges néerlandophones qui viennent en. Ça on le voit, quoi. Clairement, il y en a beaucoup moins qui viennent en France. Alors, il y a beaucoup de Belges qui vont en France, mais je veux dire, il n'y a pas des masses, quoi. Je veux dire, la scène française est peut-être plus intéressante, quoi. Tu vois, il y a des villes où il y a des groupes incroyables, quoi. Je veux dire, et donc, non, je pense qu'on. Je ne sais pas si on a facile à tourner. On a toujours tourné en France, mais forcément, on a récupéré avec la jungle les réseaux qu'on avait tissés avec Pétula, et donc.
Ça dépend ce que tu veux faire aussi. Enfin. Moi, je vois la différence avec des groupes belges qui veulent pas faire ce qu'on fait, au fait, en termes de tournée, etc. Ils veulent pas venir en France deux fois par semaine comme nous on fait. Ils préfèrent viser des gros festivals en Belgique et puis faire une grosse date aux Pays-Bas et puis faire une grosse date à Paris. Nous, on prend ce qui vient, en fait, et puis c'est des rencontres. On a rencontré un super tourneur français qui accompagne notre homme de l'ombre à nous, qui s'appelle Julien, qui gère tout, au fait. Et ce tourneur, qui s'appelle Charles, est vraiment devenu un copain, et c'est lui qui nous dégote une bonne partie des dates en France, au fait. Et, si demain, il se passe la même chose avec un gars qui est en Allemagne ou aux Pays-Bas, ben, ça va être la même dans ces pays-là, au fait. Nous, on prend ce qui vient. Et là, pour le moment, on est fort dans la France, parce que ça se met bien. Voilà.
J'ai vu sur une interview que vous aviez eu des difficultés pour presser votre dernier album. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai vu que sur Discogs, il y a un CD en vente ou pas. Comment c'est? Parce qu'en plus, vous avez énormément de maisons de labels. Cette stratégie d'aller sur plusieurs labels, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Comment est-ce que vous le voyez, en fait?
C'est la scène alternative. Avant, avec Petula, on sortait quelquefois sur 8 ou 9 labels, et puis on a sorti sur 5 ou 6 le premier disque, et puis on a tombé sur un ou deux. Mais on a un processus différent, nous, c'est-à-dire qu'on produit tout. Donc, en plus de composer et de faire le bazar, on produit tout, on décide nous-mêmes du nombre de pressages, de tout, et puis on s'arrange avec les labels, et eux nous disent, avant le pressage, ils nous disent, on aimerait bien autant de disques, mais ça passe par nous, c'est pas nous qui... C'est pas le label qui gère, en fait. On gère et le label nous demande, je fais partie du truc maintenant, je voudrais 300 disques. On rajoute ça au pressage, et tu vois. Et puis si un autre label nous demande, comme en Amérique, en Australie, pardon, il disait, j'ai besoin de 100 copies, donc on en fait 100 en plus et on lui envoie, quoi.
Il n'y a pas d'exclusivité, finalement, en fait.
C'est pas question de ça, mais on est toujours un peu dans le do-it-yourself, et donc du coup, on s'en fout un peu. Non, l'exclusivité, non. C'était déjà une condition sine qua non pour... On a eu des touches avec plusieurs, par exemple, bookers en France, et c'est le premier truc qu'on disait. On veut bien venir, mais il n'y aura pas d'exclusivité, il n'y en aura aucune, et ça n'existera jamais avec nous. Si on veut aller à Marseille et qu'on veut couper la route et jouer à 200 km, on jouera à 200 km la veille ou le lendemain.
Mmh. Oui, mais oui.
Voilà, bien attendu, puis finalement, avec Charles, ça a marché, il a compris le truc, et donc on reboucle nous des dates entre les trucs pour pouvoir, parce qu'on ne veut pas devenir le groupe qui fait... une date, je sais pas, avec un bon cachet dans le sud de la France, en one shot, tu vois, on laisse tomber. On préfère faire 3 dates.
Après, quand on disait qu'on avait du mal à... Dans cette interview, tu vois, qu'on a eu du mal à presser ce disque, c'est parce que t'as une crise globale sur le vinyle, tu vois, qui est liée à un monde qui est déréglé, en fait. Où, tu vois, t'as quand c'est pas une crise du PVC, c'est une crise d'une autre matière première, ou de granulés, ou de bazar.
C'est un plante dans le canal de Suez.
Voilà. T'as une crise du papier qui est en cours, on en parle très peu, mais... Tout augmente parce qu'il y a des problèmes partout, en fait. Enfin, et du coup, faire un vinyle, par exemple, ça devient vraiment un exploit, en fait, parce que t'as des délais qui sont hyper longs, et puis il suffit que t'aies des connards du secteur, parce qu'il y en a, des connards dans la musique, comme dans tout secteur, qui décident que represser un disque d'une rockstar qui a pas besoin de represser ses disques doit le faire, et du coup, il met tout le monde en file d'attente, et lui, il passe en priorité. Donc, tu vois, c'est un peu les dégueulasseries du monde de l'industrie du vinyle et ce genre de trucs.
Ça a triplé, voire quadruplé le temps d'attente.
Le temps d'attente a quadruplé et le prix a presque doublé. Donc c'est, voilà. Après, on le fait parce que nous, on arrive. Enfin, le merchandising, c'est hyper important pour nous. On fait des t-shirts et des vinyles parce qu'on trouve ça chouette, mais aussi parce que ça nous permet de faire les courses pour notre famille quand on rentre de tournée, de payer notre essence. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Mais oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il faut beaucoup plus de courage et de patience et de persévérance pour faire juste un vinyle. Ce qui est dommage.
Je crois que sur la famille, il y avait une question, c'était vous êtes parents. Est-ce que ça a changé votre façon d'aborder la musique, d'aborder votre métier, d'aborder les compos, d'être père de famille?
Moi, je fais plus de musique qu'avant parce que j'ai tapé mon job pour ne faire que de la musique et avoir une famille. Donc, les gens me disent ça va être compliqué. Mais non, c'est pas compliqué du tout.
C'est beaucoup plus simple en fait pour toi?
C'est plus simple qu'avant, ouais.
Ouais. Et toi?
Je réfléchis, moi. Ouais, c'est plus. Le seul truc qui a changé, c'était comme par exemple partir au States pendant un mois, revenir sur les genoux. Voilà, je dirais que maintenant, si je dois partir 15 jours, je vais faire attention que ce ne soit pas 15 jours perdus. Quand même, on y voit. Enfin, c'est con, c'est pas pécunier, mais. Tu sais, revenir en endetté, juste parce que tu t'es bourré la gueule pendant 15 jours, je ne vois plus l'intérêt. Alors. ça nous permet maintenant de mieux préparer, tu vois, se dire bah, si on y va là, ok, bah, on va le préparer à fond, on va pas aller là-bas pour juste dire on a été là-bas, tu vois. On devait aller au Japon, on a annulé parce qu'on sentait que ça allait être un peu compliqué, un peu bizarre. Et on lui dit, parce qu'on est à Nouvelle-Calédonie, on s'est dit, le mec nous dit, ah ben venez, donc il y a eu des disques au Japon, et puis on sentait le truc, il y a eu un pic qu'il n'avait jamais eu avec le Covid, les ambassades ne savaient pas dire, et puis on s'est dit, ok, tu sais quoi, on va annuler, on va téléphoner au type, et il a bien compris, parce que lui-même ne savait pas trop comment, plutôt que booker des trucs, arriver là-bas et pas pouvoir rentrer, enfin tu vois, et on sentait que ça allait être foireux. Alors ben ça permet de se dire, ben, on va pas le faire. Je crois qu'avant, sans enfant, sans rien, mais tu dis, j'y vais un mois si j'ai envie. Mais là, on se dit, non, si on y va, on prépare mieux. Enfin, c'est pas qu'on a mal le préparé, mais les conditions n'étaient pas faites, donc on préfère annuler, par exemple.
Si tu restes dans... Tu peux pas rester dans des carcans hyper punk ou hyper indé tout le temps. Il y a des moments où tu dois... Allez, par exemple, un festival comme aujourd'hui, on va pas dire non parce que la scène est gigantesque. Oui, t'as des super gros noms, oui, enfin, c'est beaucoup plus fat. Ça se rapproche plus d'un dur festival, que bien que ça n'a rien à voir, mais que d'un café, qu'un café-concert, mais c'est pas pour autant qu'on va dire non. En fait, faut juste être flexible. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à tourner autant, c'est parce que bah, on se met pas de règles, en fait, nous, on veut juste faire de la musique et faire de la route parce qu'on aime bien, et puis voilà.
On n'est pas un groupe de rock, on est un groupe de vannes. Enfin, pas des vannes dans le sens de ZNE, c'est un groupe, on est plus souvent dans un van que sur scène, tu vois.
De retour sur le direct de la Check-in Party Festival à Guéret sur ce bel aérodrome en direct sur l'ensemble des radios Ferrarock jusqu'à 19h. Et là, on vient d'entendre une entrevue avec La Jungle réalisée par Thibaut et Sabrina. Et puis avec le titre EAA juste avant La Jungle qui sont passés hier sur le Wall of Sound à 18h. Très bon concert. Enfin, l'ensemble de la soirée hier était quand même très qualitative au niveau des concerts et de l'ambiance générale du festival. Et j'imagine que ce soir, ça va être la même chose. Et là, du coup, pour enchaîner, on va s'écouter une entrevue de la présidente de RPG, la radio RPG, Isabelle. Et ça a été réalisé par Jordan.
Je suis avec Isa, qui est donc la présidente de l'association de RPG, Radio Pays de Guéret. Salut Isa.
Salut.
Alors, peut-être on peut commencer par une genèse de RPG, puisqu'on est là, ici, on est sur votre territoire, donc à Guéret, à Saint-Laurent plus précisément. RPG, est-ce que c'est une radio associative quarantenaire, comme beaucoup de radios associatives fêtent leurs 40 ans en ce moment, enfin cette année-là en France, ou est-ce que c'est une radio qui est plus jeune ?
C'est une radio qui est beaucoup plus jeune. On va fêter nos 15 ans, en fait. Voilà. Donc, elle est née il y a une quinzaine d'années.
Et alors, elle est née comment, cette radio ?
Alors, elle est née de la volonté de quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Bordier, à la base, dont tu as peut-être déjà entendu parler, je ne sais pas, mais voilà, qui est une figure un peu locale et qui a créé aussi une autre radio sur le territoire creusois, plus sur le sud de la Creuse. Et voilà, puis bah, de motivation, de gens plutôt motivés. Donc moi, je n'étais pas là au tout début. Hein. Moi, ça fait une dizaine d'années là maintenant que je suis dans l'association. Mais voilà comment Radio Pays de Guéret est née.
Et alors, toi, tu as commencé comment dans cette radio ? Est-ce que tu as commencé en faisant de la radio ? Est-ce que tu es une présidente qui fait de la radio ?
Oui,
ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé, je n'avais jamais mis les pieds dans un studio radio, je ne connaissais pas du tout ça. Et je suis rentrée par la porte cinéma, donc c'est un peu atypique. Mais il se trouve qu'on est une radio qui propose des émissions sur le cinéma. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et du coup, bah voilà, avec un groupe de copains, on a commencé à faire, à animer une émission sur Radio Pays de Guéret. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à rentrer dans l'association. Et puis, bah, de fil en aiguille, tu passes les étapes, tu rentres dans le conseil d'administration. Et puis, bah, un jour, on te dit, ah, il n'y a plus de président, donc il faut prendre la suite, ça t'intéresserait ? Bah ouais, pourquoi pas.
Mais
voilà.
Alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir présidente de cette association ? Quelle valeur
Alors moi, ce qui me plaît, en fait, alors il y a tout le côté, bien sûr, associatif, hein, qui est hyper important. Enfin, le fait d'avoir des gens aussi autour de soi qui sont motivés, qui sont engagés. Après, c'est une radio qui est, au niveau musical, qui est très éclectique, enfin, qui propose vraiment des choses intéressantes et puis qui développe aussi tout un tas de choses autour. On en parlera peut-être après, je ne sais pas. Et bah, le fait d'être présidente, alors voilà, ça s'est fait aussi un peu parce que bah, il fallait qu'il y ait une suite. Hein. Malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est difficile aussi. Que ça faisait plusieurs années que j'étais déjà dans le conseil d'administration. Et puis, voilà, je ne vais pas te cacher que le poste de président ne me faisait pas non plus grimper dans les tours. Mais je trouve que c'est important aussi, voilà, quand on a des valeurs, de pouvoir s'engager. Et puis, en effet, RPG, il me semble, véhicule un certain nombre de valeurs avec lesquelles je me sens assez proche quand même.
Alors, est-ce que ce sont des valeurs d'éducation populaire, comme on en parle beaucoup dans les radios
associatives ? Exactement, ouais. Alors, en plus, moi, par ma fibre, par mon activité professionnelle, je suis assez sensible à tout ce qui est éducation aux médias en général. Médias, alors que ce soit visuel, mais aussi audio. Et je trouvais justement que cette éducation audio n'était pas suffisamment développée, notamment au niveau scolaire. Alors, il y avait déjà des choses au niveau de RPG hein, qui existaient. Mais développer ce côté atelier radiophonique en milieu scolaire, ça me paraissait important et hyper intéressant de pouvoir aller auprès des jeunes justement pour développer ça. Donc oui, le côté éducation populaire et puis après voilà tout ce qui est aussi proximité sociale, pouvoir, en plus nous on est une radio implantée dans un quartier de Guéret qui est un quartier politique de la ville, donc pouvoir être auprès des populations les plus en difficulté, il y avait tout ça qui m'intéressait et qui font que voilà, j'avais vraiment envie aussi de pouvoir m'investir un peu plus loin là-dedans.
Alors, mis à part les ateliers radio, qu'est-ce que vous faites d'autre justement pour aller au plus proche de la population et des gens du territoire ?
Alors, Y a pas mal d'actions en dehors, tout ce qui est animation, voilà. Le Covid nous a permis aussi de nous renouveler un petit peu et de chercher d'autres idées. J'ai la chance d'avoir deux salariés qui sont super au top et qui font un boulot de dingue et qui sont vraiment géniaux. Ils ont plein d'idées.
Ils sont souvent sur le terrain. Hein.
Ouais, Thibaut et Anne-Laure font un boulot extraordinaire. Anne-Laure, elle a des idées à foison. Du coup, c'est vrai qu'elle bouge beaucoup sur le territoire, pas que sur la communauté de communes de Guéret d'ailleurs. Elle navigue un petit peu partout. Je disais le Covid, ouais, nous a permis aussi et nous a obligés à nous renouveler pour justement essayer de toucher le plus possible d'auditeurs qui n'avaient pas aussi cette habitude-là peut-être de d'écouter la radio ou en tout cas chercher des idées. On a mis en place un système de concerts parce que les groupes ne pouvaient pas jouer pendant la période de Covid, donc il y avait des concerts deux fois par mois. Dans une salle qui est juste à côté de nos locaux, qui permettait aussi aux gens de pouvoir suivre en live sur Internet les concerts. On a essayé de se renouveler un peu de cette façon-là pour pouvoir toucher le plus de monde possible.
Et alors justement, en parlant de population, vous êtes sur un bassin de population qui est assez singulier, puisque Guéret, on se le disait là hors antenne, c'est la plus petite préfecture de France.
Alors, ouais, peut-être qu'on se bat un peu avec la Lozère.
Ah oui,
ça doit être ça. Mais oui, c'est tout petit, Guéret, en fait. Hein.
Voilà,
oui.
Et vous êtes deux radios associatives. Il y a Radio Vassivière et vous.
Alors, Radio Vassivière ne touche pas notre territoire nous. On est vraiment la seule radio sur la communauté de communes. Hein, parce que Radio Vassivière, ils sont plus basés sur le sud de la Creuse. Donc on est les seuls avec nos copains de Radio France Bleu Creuse en fait.
Voilà, et alors comment ça marche? Ça repose beaucoup sur ces deux salariés qui vont beaucoup sur le territoire. Vous avez beaucoup de bénévoles aussi
Les bénévoles, eux, font plutôt les émissions qui sont en fin de journée. Il y a une quinzaine d'émissions à peu près, réparties sur la semaine. Les deux salariés, donc Thibaut et Anne-Laure, eux font tout le travail. Donc Thibaut plutôt la programmation et il est directeur de la radio. Et puis Anne-Laure, tout le travail en fait, journalistique aussi, de terrain, de chronique, pendant la journée.
Et alors comment ça se passe une journée sur RPG du matin au soir au niveau des programmes? C'est beaucoup de prise d'antenne des deux salariés, des bénévoles, tu disais c'est plus en fin de journée?
Ouais, les bénévoles, les bénévoles pour la plupart ont une activité professionnelle. C'est plutôt en fin de journée avec des émissions qui sont le plus souvent possible en direct dans les studios. Le reste de la journée, on a un film musical qui est quand même assez riche. Il y a donc toutes les chroniques et tous les reportages produits par Anne-Laure. On fait partie aussi du groupement des radios associatives libres, qui est un groupement d'une douzaine de radios là sur le Limousin. Enfin, nous, on parle encore de Limousin. On est sur la nouvelle région Aquitaine, mais on a encore le Limousin. Et il y a aussi donc les journaux de ce groupement pendant la journée.
Et alors, vous êtes aussi membre de la Ferraroc.
Ouais.
Ça fait longtemps que vous êtes Ferraroc. Comment ça s'est passé? T'étais déjà là?
Je suis arrivée, j'ai pris la présidence au moment où on prenait notre adhésion à la Ferraroc. Donc, on a commencé à en parler en 2019 et là, on est depuis 2020, il me semble. Je t'ai dit que j'étais pas très bonne avec les chiffres.
Oui, c'est pas très grave.
Ça, ouais. Voilà, on est assez jeune, en fait, dans la Ferra.
Et c'était important pour vous de rentrer dans une fédération comme celle-là?
Dans celle-ci, oui. Mais j'ai envie de dire, dans n'importe quelle fédération, ça nous paraît aussi important parce que ça permet d'une ouverture aussi importante, de rencontrer des gens, c'est super aussi. Et puis, c'est une question d'échange aussi, de pouvoir échanger. Parce que c'est pas rentrer dans une fédération, c'est pas pour reprendre, c'est aussi pour pouvoir donner. Et donc, ça nous paraît important aussi d'avoir ce rôle-là.
Et alors du coup, on a un peu cette image de la Creuse, le coin super isolé, où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a pas beaucoup de monde. Et finalement, ça a l'air d'être quand même très riche culturellement. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup que finalement, il ne se passe rien.
C'est ça. On a un tissu associatif qui est très développé. et on a des programmations culturelles qui sont vraiment hyper intéressantes. On a un cinéma à Guéret qui est cinéma aussi d'art et essai, donc qui a que 5 salles mais qui a une programmation, et du coup ça nous a aussi permis de faire quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Et par le biais des RPG, on a créé un ciné-club là il y a maintenant 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Donc il fonctionne avec une séance par mois. On est en partenariat avec la bibliothèque multimédia de Guéret et on travaille donc avec eux. Et ça nous permet aussi, autour des films, de proposer le film un soir, et la semaine suivante on fait des ciné-rencontres autour des films. Hein, voilà.
Et alors la radio, elle intervient comment là-dedans?
Alors,
vous
la radio...
deux émissions de radio en parallèle?
Ouais, alors du coup, les deux émissions de radio qui fonctionnent en alternance, bossent autour de la programmation aussi du ciné-club. Puis ça nous permet d'inviter des gens, ce qui est pas mal aussi. Et puis bah, c'est surtout aussi que c'est une émanation, le ciné-club est une émanation aussi de RPG, et que c'est une émanation en fait des émissions de ciné, et qu'on souhaitait pas créer une autre association, mais que vraiment voilà, ça soit un truc en plus.
C'est la singularité de RPG. Quoi.
Bah peut-être, je sais pas. Si tu connais pas d'autres radios qui ont cette particularité là, mais
après ouais. Chaque radio associative, c'est vrai, ouais, à sa manière de fonctionner, à ses petites singularités. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce paysage de radio associative en France. Quoi.
Ouais. Voilà.
Vous, c'est le ciné.
C'est le ciné. Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. C'est une petite partie, mais c'est ça.
L'avenir de RPG, c'est quoi?
Déjà, se maintenir. Parce que ça a été très compliqué pour toutes les associations, hein, la période qu'on vient de vivre. Il y a aussi le problème de la perte des aides aux emplois associatifs, hein, qui est un petit peu compliqué à gérer au niveau financier. Mais déjà, continuer sur cette lignée, sur cette lancée de projets, continuer à lancer des projets, même si c'est modeste, mais continuer, et qui permettent de faire vivre la radio. Et ça, je fais confiance aux deux salariés pour trouver des idées, parce qu'ils sont force de proposition, et puis c'est des vrais moteurs. On est basé au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle la Quincaillerie Numérique à Guéret. Donc non, on ne va pas redéménager.
Vous êtes bien là où vous êtes.
C'est super bien parce que...
Dis-nous quelques mots sur ce tiers-lieu.
Alors, le fait d'être dans ce tiers-lieu, c'est important aussi parce que ça nous permet... Je te parlais d'échange et tu as bien compris en fait que c'est un peu ce qui nous anime aussi. Et le fait d'être dans ce lieu-là, ça permet aussi d'être au contact de plein d'autres associations, parce qu'il y a plein d'autres associations qui sont basées sur ce tiers-lieu. Et du coup, ça génère aussi peut-être des idées, ça, de partenariat et de réseau. Donc, on est très bien implanté, on est au cœur de notre quartier politique de la ville, et c'est intéressant.
RPG, Radio Pays de Guéret, sur le 96.5.
C'est ça.
De la bande FM en Creuse,
en
terre du milieu.
En terre du milieu, si tu peux le dire.
Merci beaucoup Isa, on est à la fin de l'interview.
Merci à toi.
Salut.
Au revoir.
Et merci Jordan pour cette entrevue de Isa, présidente de RPG. On est toujours en direct de la Check-in Party sur l'ensemble des radios Ferrarock pendant 2 heures, de 17h à 19h. Et là sur le plateau, on reçoit l'équipe du label Talitre, et ce sera avec Chami de Bob FM que cette entrevue va se passer.
Merci Pablo, bonjour tout le monde, salut les filles, salut les garçons, heureux de vous retrouver pour ce deuxième jour de la Check-in Party, où nous allons continuer à parler une fois de plus de l'indépendance musicale, certes avec RPG il y a quelques secondes, indépendance également sur les labels avec ce Zoom autour donc de Talitre. Pour en parler avec moi, j'ai Inès, la chargée de communication, ainsi que Sean, le fondateur de ce label. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur ce plateau donc des radios Ferrarock. Parlons de ce label Talitre qui fête un anniversaire, mais ça on aura l'occasion d'y revenir à la fin de cette interview. J'aime beaucoup la définition en tous les cas qui vous est donnée sur votre site internet. Défendre les artistes qui parlent à nos oreilles et qui secouent notre cœur. Voilà donc ces quelques mots qui définissent tout le travail acharné, et ce depuis 20 ans, pour défendre ce genre musical qui vous est propre. C'est le mélange entre la folk, la pop, cette musique indépendante, à travers différents groupes que je pourrais citer qui nous invitent à des voyages musicaux complètement différents. Je pense notamment à Motorama, qui a une touche beaucoup plus synthétique par rapport à d'autres artistes dont on aura peut-être le temps donc d'écouter. Sean, on va revenir sur l'histoire de Talitre, vouloir défendre ces artistes-là. Il y a de cela plus de 20 ans maintenant, c'était peut-être une chose beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu se lancer dans cette folle aventure du disque?
C'est amusant que tu me poses la question parce qu'on a eu une discussion hier avec Gaëtan de Yotanka sur la difficulté de créer un label indépendant et la difficulté de pouvoir porter un label indépendant sur la durée. Et il me demandait, il avait l'impression effectivement que en 2022 c'était plus compliqué qu'en 2000. Je sais pas en fait si c'est plus compliqué à l'heure actuelle qu'en 2000. Je pense que avec toujours des volontés de porter des projets et toujours l'envie de défendre les groupes qu'on a véritablement envie de porter le plus loin possible, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses possibles à l'heure actuelle. Ce qui est évident, c'est qu'il faut être patient. Ce qui est évident, c'est que il faut croire au projet qu'on va défendre et croire au projet qu'on va signer. Il faut jamais avoir la certitude que tout est gagné. Il faut toujours se dire que tout est à remettre en cause et que il faut toujours tout questionner, ce qui est plutôt assez fatigant mais aussi très intéressant, parce que c'est un petit peu le quotidien d'un label que d'essayer de trouver de nouvelles solutions dans une économie qui est quand même en complet bouleversement depuis maintenant 20 ans et peut-être encore plus depuis les 10 dernières années. Il y a toujours de nouvelles facettes à explorer, il y a toujours une indépendance à défendre, une diversité artistique à défendre, même si certainement je ne sais pas si elle est plus compliquée à l'heure actuelle qu'en 2000 ou 2005. Elle est bien évidemment très complexe à défendre à l'heure actuelle, mais c'est pour cela qu'il faut se battre encore davantage, je pense, et toujours croire au projet qu'on va signer et toujours croire au groupe qu'on va accompagner.
On peut parler aussi du travail d'un label. Alors c'est certes, le travail final, c'est le disque, c'est l'objet que vous pouvez retrouver en vente dans les bacs, mais c'est aussi tout un accompagnement artistique. Il y a aussi tout le travail d'enregistrement pour produire justement ce disque. Quelles sont vos limites à vous ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en capacité aujourd'hui d'accompagner un groupe pendant toute une session d'enregistrement, trouver un lieu pour enregistrer, trouver des personnes ?
Ah bah complètement, ouais. Il y a différents types de contrats en fait quand on gère un label indépendant. Il y a le contrat de production, qui est un contrat d'artiste, hein, qui implique en fait que une société comme la nôtre accompagne des musiciens, j'ai tendance à dire depuis la chambre jusqu'à la commercialisation du disque. Et ce qui implique effectivement des budgets de production avec des locations du studio, avec les salaires des musiciens, parce que légalement on est producteur lorsqu'on délivre des salaires en fait aux musiciens qui sont en studio en train de faire des sessions d'enregistrement. Il y a des conventions collectives qui impliquent qu'on a un certain nombre de cachets à faire par musicien, par minute d'enregistrement. Alors je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un tout petit peu complexe, mais bien évidemment ce sont des budgets qui sont pas forcément négligeables. Enregistrer alors un projet, on va dire, de 3 à 4 musiciens avec une semaine de studio, parce qu'on travaille, enfin les musiciens travaillent de plus en plus chez eux pour arriver avec le maximum de données en main et la possibilité de réduire les journées de studio de façon à réduire les coûts. Donc on arrive à faire des enregistrements qui sont sur une durée de 7 à 10 jours. Il y a le budget bien sûr donc de location, il y a les salaires, il y a le budget de l'ingénieur, le directeur artistique qui est en studio, ça c'est pas nous. Il y a tout ce qui est mixage, post-production, mastering, etc. etc. Donc sur un budget de production d'album, on va rapidement atteindre quelque chose comme 20 000 euros. Et là, on a uniquement produit l'album, hein, et il faut après s'occuper de tout ce qui est duplication, fabrication des vinyles, des CD, développement numérique, etc., etc. Donc sortir un disque, hein, de façon globale, ça doit coûter un label comme Talitre quelque chose comme 35 000 euros, sachant qu'on a une marge à peu près de 2 euros par disque. Soit il faut en vendre beaucoup,
oui,
ce qui n'est pas notre cas, ce qui est rarement notre cas.
Ce qui est rarement le cas des labels indépendants.
Ce qui est rarement le cas des labels indépendants. Soit il faut essayer d'être un peu touche-à-tout, de développer des activités, d'être label, mais pas uniquement label, d'être tourneur, de développer l'export, de faire de l'édition, d'essayer de faire de la synchro. Soit on fait ça et on va en plus, parce que là c'est encore insuffisant en fait comme revenu, mis bout à bout c'est pas forcément ça qui nous permet d'équilibrer, mais il faut faire ça plus parallèlement. Quoi qu'on en dise, on a quand même la chance en France de faire partie d'un système où il y a un certain nombre d'aides,
oui.
Que ça soit le contrat de filière qu'on évoquait tout à l'heure, que ça soit l'ADAMI, que ça soit la SCPP, que ça soit la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui depuis des concertations territoriales de 2006 soutiennent les labels indépendants. Voilà, donc il est clair que sans ces soutiens financiers, sans ces appuis, on ne pourrait pas prendre les risques artistiques et financiers qu'on prend actuellement.
Alors, on vous a donné quelques chiffres, quelques données pour que vous compreniez un petit peu la globalité du travail que cela peut représenter, des sommes aussi pour voir un petit peu le budget que cela représente. Et un dernier chiffre, on est sur quel volume de disques qui sortent en physique actuellement ?
Le nombre de productions par an, tu veux dire ?
Ah non, le nombre de disques que tu fais pour un artiste, par exemple, que ce soit au format CD, soit au format vinyle.
C'est très variable. On est sur un premier pressage vinyle aux alentours de 1500, de 2000 pièces. Et on est sur un pressage CD aux alentours de 2000-2500 pièces. Sachant que si vous avez suivi un petit peu la problématique autour du vinyle en France, il faut qu'on soit très vigilant sur le premier pressage, parce qu'en fait on a des délais de fabrication qui sont devenus totalement aberrants depuis presque 2 ans maintenant.
On est aux alentours de 6 mois, hein.
Voilà, donc il faut qu'on soit vraiment, on peut à la rigueur décaler une sortie, il faut qu'on fasse attention à pas être avec un stock qui s'épuise très vite, parce que si on a besoin de remettre en bac un disque et de devoir attendre en fait un repressage, là on se retrouve dans une situation qui est particulièrement compliquée, parce que quand on commence à avoir un petit succès commercial, on a quand même envie de fournir en disque en fait, quoi. Donc ouais, la grosse problématique c'est le réassort. C'est la raison pour laquelle en fait il faut mieux fabriquer un tout petit peu plus de façon à avoir du stock, et puis en plus ça coûte quand même moins cher à l'unité, et pouvoir fournir si les disques s'écoulent en magasin ou après concert.
C'est un travail qui est en constante évolution depuis 20 ans, âge de votre label, de par tout simplement aussi les priorités technologiques. À chaque fois, il faut pouvoir donc bien s'adapter aux différents formats. Le format numérique est arrivé, Internet s'est énormément développé. Il faut faire face aussi à toutes ces plateformes de streaming sur lesquelles vous êtes présent, vous, label indépendant. Là encore, on pourrait parler durant de longues minutes autour de la redistribution monétaire et de l'argent donc qui nous est proposé, et faire face donc tout simplement à ces entreprises, ces industries donc de la musique qui dirigent tout simplement le business, et c'est aussi eux que l'on peut impliquer dans les délais aujourd'hui. Pour évoluer, il faut former une équipe, et c'est le cas à Talitre avec l'arrivée d'Inès. Donc Inès, toi tu es arrivée depuis peu, quelles sont tes tâches dans ce label ?
Alors moi je suis arrivée il y a un an chez Talitre. Au début en tant que stagiaire pendant 6 mois, et après Sean m'a proposé de rester du coup dans le label. Au tout début j'avais principalement des missions de promotion de concerts, donc vraiment beaucoup de contacts presse en local, donc notamment avec Ferrarock.
Ouais.
Mission que j'ai gardée, et avec ça j'ai aussi des missions qui sont un petit peu des missions de développement, comme ce qui est expliquait Sean tout à l'heure, le label c'est aussi toujours chercher à développer ses activités, donc c'est chercher à acquérir des contacts à l'international, c'est chercher à faire des ponts entre les acteurs, que ce soit du réseau de la musique ou d'autres cultures. Et en parallèle de ça, donc on a décidé d'avoir un autre projet, un projet d'événement, de soirée que Sean avait envie de faire depuis un moment. Et moi, je lui ai dit que c'était quelque chose qui me motivait pas mal, de diversifier un peu mes missions, ouais, d'aller chercher autre chose dans le label, et puis de toucher un peu à ce terrain. Ça me plaisait pas mal. Et donc, on a décidé de monter cette soirée en parallèle avec d'autres acteurs de la culture.
Alors, ça sera une soirée qui s'annoncera donc pour la rentrée.
C'est ça.
Pour fêter les 21 ans du label, puisque j'imagine que les 20 ans n'ont malheureusement pas pu se fêter comme il faut par rapport à une certaine problématique sanitaire, mais du moins c'est bien aussi de fêter ses 21 ans, âge en tous les cas dans lequel on peut s'émanciper dans d'autres pays. Est-ce que tu peux me dire, les groupes en l'occurrence, ce sera deux formations que l'on peut retrouver sur le label qui sont présentes ?
Ouais, c'est deux formations du label, Maxwell Farrington et le Super Omar, qui est donc un groupe formé avec Maxwell Farrington, qui est un Australien maintenant installé en Bretagne, qui a une voix de crooner assez emblématique. Et Christophe Vaillant, donc le Super Omar, qui lui s'occupe principalement de tout ce qui est instrumental, arrangement et composition, qui joueront donc notre tête d'affiche. Et en première partie, on aura une artiste anglo-libanaise qui s'appelle Nadine Khoury, qui va sortir un album prochainement en novembre, et qui a, elle, une esthétique presque un peu plus jazz, une voix formidable, envoûtante. Et donc c'est une soirée qui se passera donc le 17 septembre à Bordeaux, dans une cour somptueuse, dans un musée, où on aura aussi l'occasion de rencontrer les artistes à l'intérieur du musée.
Ça sera du côté, pardon, je te coupe, hein, du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux.
Exactement.
Et on n'a pas le temps pour la suite de ce fameux programme qui s'annonce plutôt chouette. J'inviterai tout simplement les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent à découvrir, redécouvrir le label donc, bien Talitre à travers donc, son site internet qui est extrêmement complet, talitre.com avec un S bien entendu, à écouter et à acheter les disques, le support physique de préférence, mon petit chouchou bien entendu, pour tout simplement bien soutenir ces belles initiatives que l'on peut retrouver entre autres du côté de Bordeaux. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Excellent festival et à
merci.
Très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci Sean et Inès d'être venus sur le plateau et on va devoir clôturer cette première heure avant de rattaquer pour une deuxième. Et puis, merci à tous, merci Chami,
merci Pablo,
merci Thibaut pour la technique et on se retrouve tout de suite.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage.